Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée vendredi 12 février, notamment par la célébration des 90 ans d'existence de Radio Vatican, la radio du Pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Burkina Faso, au Mali et en République démocratique du Congo, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a reçu tour à tour vendredi en audience privée le cardinal Beniamino Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé, Monseigneur Antonio Guido Filippassi, nonce apostolique au Nigeria et représentant permanent du Saint-Siège auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toujours vendredi, une délégation de l'Institut d'études européennes de Stockholm a été également l'hôte du pape. Dans son message à ce dernier, le pape a encouragé les membres de l'Institut d'études européennes à rester engagés dans la recherche de nouvelles voies créatives qui conduiront à la croissance de la culture, de la rencontre, au profit également de l'harmonie et du bien-être des générations futures. À l'occasion du 90e anniversaire de Radio Vatican, le Saint-Père a envoyé un message pour encourager les journalistes et employés de cette institution, les invitant à parler au monde avec courage et créativité afin de faire émerger la vérité des choses. Le pape a aussi loué le média radio pour sa capacité à amener une parole dans les périphéries géographiques, même les plus reculées. Il est important de préserver la mémoire de notre histoire et d'être nostalgique non pas tant du passé que de l'avenir que nous sommes appelés à construire, a déclaré l'évêque de Rome dans son message, faisant remarquer que la radio a cette belle chose, qu'elle apporte la parole même dans les endroits les plus reculés. Et aujourd'hui, elle la combine aussi avec des images et de l'écrit. Allez de l'avant avec courage et créativité en parlant au monde et construisez ainsi une communication capable de nous faire voir la vérité des choses. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé vendredi membre ordinaire de l'Académie pontificale pour la vie le père Paolo Benanti, maître de conférences en théologie morale, bioéthique et neuroéthique à l'Université pontificale grégorienne en Italie, la sœur Margarita Bofarul Buñuel, professeure de théologie morale à l'Université centra-américaine José Simeón Cañas à El Salvador, les professeurs Gualtier Walter Ricciardi, professeur ordinaire et directeur du département de la santé des femmes, de l'enfance et des sciences de la santé publique à l'Université catholique du Sacré-Cœur en Italie, Maria Chiara Carozza, professeure de génie industriel à l'École normale de Pise en Italie. Il a été rendu public vendredi le message du pape pour le temps de carême, message intitulé « Voici que nous montons à Jérusalem ». Dans ce temps de conversion conduisant aux célébrations pascales, écrit notamment François dans son message, « Nous renouvelons notre foi, nous puisons l'eau vive de l'espérance et nous recevons le cœur ouvert, l'amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. L'itinéraire du carême, comme l'itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ, fait remarquer l'évêque de Rome, considérant le jeûne, la prière et l'aumône comme condition et expression de notre conversion. Revenons à la célébration des 90 ans de Radio Vatican. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a célébré vendredi la messe d'action de grâce pour cet anniversaire de Radio Vatican. Dans son homélie, le cardinal Parolin a fait remarquer que, par une providentielle coïncidence, l'évangile du jour parle précisément d'une guérison qui permet de communiquer à nouveau, de parler et d'écouter à nouveau. Depuis le début, a-t-il fait savoir, Radio Vatican a représenté un signe d'ouverture sur le monde, non seulement d'un point de vue géographique, en atteignant les latitudes les plus éloignées, mais aussi d'un point de vue historique, en devenant un jalon dans l'innovation en matière de communication. Radio Vatican a poursuivi, le cardinal secrétaire d'État a créé un réseau qui s'est étendu partout, expression de l'universalité de l'Église catholique et du ministère pétrinien. De plus, elle a fait prier à l'unisson des personnes se trouvant à des milliers de kilomètres. Ce message a atteint des peuples lointains dans différentes langues sous le signe de l'esprit qui atteint et unit tout le monde. Radio Vatican a même percé le rideau de fer, faisant en sorte que la présence de Dieu atteigne les totalitarismes qui nient son existence. Toujours en lien avec les 90 ans de Radio Vatican, nous vous proposons de suivre le témoignage du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, qui dit ce que représente pour lui Radio Vatican.
Je commence d'abord par souhaiter joyeux anniversaire à Radio Vatican et à tous ses auditeurs. Moi, personnellement, j'ai grandi avec Radio Vatican. Vous savez que dans notre pays, la radio nationale ne dépasse guère les frontières de la ville de Kinshasa. Et à l'intérieur, quand nous étions petits, on avait l'habitude d'écouter Radio France Internationale et Radio Vatican. Et pour nous, Radio Vatican, c'est la voix du pape. Grandi, devenu prêtre, devenu évêque et aujourd'hui cardinal, j'ai un attachement très affectif à cette radio qui nous permet d'entendre la voix du Saint-Père, qui nous permet d'entendre la voix des pasteurs de par le monde et aussi nous informer sur la réalité socio-pastorale de notre Église. C'est avec ce sentiment de gratitude à tous les animateurs de la radio Vatican et ses auditeurs que j'exprime mes voeux à l'occasion de cette célébration des 90 ans d'anniversaire.
Éminence, à vous attendre, vous voulez dire que pratiquement Radio Vatican contribue aussi d'une manière ou d'une autre à l'évangélisation dans votre pays, la République démocratique du Congo et en Afrique en général, pour ne pas parler du monde entier.
Au Congo, Radio Vatican reste la radio de référence, comme la voix de l'Église. Comme vous savez, dans notre pays, l'Église catholique n'a pas une radio qui couvre l'ensemble du territoire, tout comme la radio nationale aussi, hein. Alors quand il y a des informations importantes, de messages importants, des actes allant dans le sens de l'évangélisation du peuple, c'est la Radio Vatican qui nous aide à répercuter les événements socio-pastoraux dans les diocèses, dans les communautés. Et dans ce sens, Radio Vatican, pour nous, c'est un puissant moyen d'évangélisation.
Toute œuvre humaine a toujours ses points faibles aussi. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner à Radio Vatican pour bien faire son travail, pour l'encourager à aller de l'avant ou à améliorer ce qu'elle est en train de faire?
Au niveau de notre pays, j'ai seulement l'impression que Radio Vatican n'a pas un vrai représentant permanent. Nous aurions beaucoup aimé qu'il y ait quelqu'un qui cherche les informations, qui les centralise et qui les envoie à Radio Vatican pour pouvoir les répercuter ensuite au niveau de l'Église universelle, particulièrement ici en Afrique. Peut-être c'est aussi de notre côté que nous devons y penser. Mais je trouve que c'est quand même une petite faiblesse.
Un dernier mot concernant l'anniversaire de Radio Vatican pour clôturer, Éminence.
Radio Vatican, après autant d'années, a déjà fait ses preuves et avec l'évolution très rapide de nouveaux moyens de communication, mes souhaits, ce serait que Radio Vatican soit toujours au top niveau de moyens de communication, étant donné que l'Église est universelle, qu'elle soit vraiment la radio qui porte au niveau universel pour que nous puissions nous aussi savoir être au courant, informés des réalités des autres églises et sœurs, tout en leur donnant aussi des informations nous concernant. Mais l'idée, c'est que Radio Vatican reste toujours au top.
Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, en République démocratique du Congo, propos recueillis par Jean-Pierre Bojoko. Restons en République démocratique du Congo pour parler des quatre ecclésiastiques qui ont été investis ambassadeurs de la paix à Kikwit. Les détails de notre correspondant local.
La Fédération mondiale des ambassadeurs de la paix s'y emploie, son réseau de Kikwit dans la province du Kwilu aussi. Quatre ecclésiastiques figuraient parmi les six nouveaux ambassadeurs universels de la paix investis le samedi 6 février à Kikwit avec un général et un colonel de l'armée. Ce sont M. l'abbé Nikez Bukayanfu du clergé diocésain, le frère Théotime Oubole, missionnaire du Verbe divin, directeur de la radio diocésaine Tomissa, coordinateur provincial de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle et coordinateur de la Commission Justice et Paix et Intégrité de la Création dans sa congrégation. Deux religieuses éducatrices ont aussi été investies, sœur Pauline Mabolongo, sœur de la Charité de Namur, et sœur Thérèse Loco, Annonciade de Verlet. Le coordinateur du réseau des Kikwit, Arsène Ngondo, a déclaré que partout, le choix porte sur des personnalités jouissant d'une moralité établie par leur communauté de résidence avec des réalisations nobles reconnues. La sœur Thérèse Loco, Annonciade de Verlet, dirige l'organisation dénommée Encadrement des jeunes de Zévreux pour un avenir meilleur. C'est elle qui a prononcé le mot de remerciement au nom des six nouveaux ambassadeurs universels de la paix. La religieuse a emprunté des expressions à Saint Paul.
À chacun de nous est adressée l'exhortation paulinienne. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Monseigneur Bernard Nsayi, évêque émérite de Nkayi en République du Congo, Congo-Brazzaville, est décédé à Rome dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 98 ans. Bouclons l'actualité de l'Église par le Sénégal, où notre correspondant nous rend compte des ordinations sacerdotales au diocèse de Thiès.
Le clergé diocésain de Thiès s'est enrichi de six nouveaux prêtres ce samedi 2 février. L'ordinaire du lieu, Monseigneur André Gueye, a conféré l'ordination sacerdotale aux abbés Maurice Diata, Joseph Kama, Urbain Baye, Henri Tine, Simon Pouille et Jean-Paul Pouille à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. En cette fête de la présentation de Marie, Monseigneur Gueye s'est adressé aux ordinants à l'homélie en ces termes.
Chers fils, portez la miséricorde. Soyez disponibles à confesser, à compatir, à consoler, à réconforter, à écouter.
Et Monseigneur Gueye d'avertir.
Celui qui est appelé à continuer la mission du Christ, comme Saint Paul, s'associe nécessairement à sa gloire et à son sacrifice.
Au thème de la célébration, l'abbé Maurice Diata a remercié au nom des nouveaux prêtres.
Merci de nous avoir consacré. Selon l'ordre ministériel, par l'imposition de vous-même, ordonnez prêtre, en de pareille circonstance, vous faites de nous des prêtres d'espérance. Tout est grâce.
Clément Arwandjinou Dakar pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a annoncé vendredi qu'un des 28 casques bleus togolais blessés mercredi dans une attaque contre leur camp dans le centre du Mali a succombé à ses blessures. Ce décès porte à 6 le nombre de casques bleus tués depuis le début de l'année en servant la mission de paix la plus meurtrière de l'ONU dans le monde. 5 avaient été tués en janvier par des engins explosifs improvisés. Une des armes de prédilection des djihadistes. Mercredi, la base temporaire de la MINUSMA près de Kerema, dans les environs de Douenza, a d'abord été visée avec un véhicule suicide chargé d'explosifs avant que l'attaque ne se déploie à coups de tir, d'obus et d'armes automatiques, a rapporté un responsable onusien. Le conseiller sur les questions de sécurité du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le russe Valéry Sakharov, a appelé vendredi les rebelles qui ont lancé une offensive contre le régime à menotter et livrer leur chef à l'armée. La Russie soutient ouvertement depuis 2018 le gouvernement de M. Touadéra, notamment grâce à un accord bilatéral de défense et de nombreux paramilitaires de la société privée de sécurité Wagner, des formateurs pour son armée selon Moscou. Au moins un soldat a été blessé dans les opérations contre la rébellion en Casamance, dans le sud du Sénégal, c'est ce qu'a annoncé jeudi l'armée sénégalaise. Cet incident est survenu le 3 février lorsqu'un militaire a reçu un éclat qui lui a causé une légère blessure au bras lors de heurts entre des soldats et des rebelles près de la Guinée-Bissau, voisine, a précisé l'armée du Sénégal.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le bureau de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo a annoncé jeudi un deuxième décès causé par la maladie à virus Ebola dans une région de l'est du pays après la récente réapparition de la maladie. La notification d'un deuxième cas confirmé d'Ebola a été enregistrée dans l'aire de santé de Massoya. Il s'agit d'une cultivatrice de 60 ans décédée le 10 février, ayant un lien épidémiologique avec le premier cas. Au Nigeria, les autorités locales ont annoncé la fuite de quelques 4000 éleveurs peuls cette semaine du sud du pays vers le nord, après la multiplication d'attaques contre leur communauté par des membres d'autres ethnies qui les accusent de la montée de l'insécurité. Ces dernières semaines, plusieurs campements d'éleveurs peuls ont été attaqués dans la région du sud-ouest dominée par la communauté Yoruba et le sud-est majoritairement Igbo du pays le plus peuplé du continent africain. Une épidémie d'hépatite E affecte plus de 700 personnes à Barsalogo, petite ville du nord du Burkina Faso, qui accueille des déplacés fuyant les violences djihadistes et intercommunautaires. C'est alarmé vendredi Médecins sans frontières.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur l'actualité internationale de la semaine avec Donatien Niembo.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale au cours de la semaine. La mobilisation contre le coup d'État ne faiblit pas en Myanmar vendredi, tandis que des milliers de prisonniers ont été relâchés par la junte qui intensifie en revanche les arrestations d'opposants. Par ailleurs, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé vendredi des sanctions ciblées contre les responsables du putsch militaire dans ce pays afin de ne pas faire souffrir davantage la population. Yoshiro Mori, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon, a annoncé vendredi sa démission après le tollé provoqué par ses propos sexistes de la semaine dernière. Mais la question de son successeur n'est pas encore tranchée. L'armée ukrainienne a annoncé vendredi que deux soldats avaient été tués par les séparatistes pro-russes jeudi, jour d'une visite du président Volodymyr Zelensky sur la ligne de front dans l'est du pays avec des ambassadeurs du G7. Les procureurs démocrates aux États-Unis ont exhorté jeudi les sénateurs à condamner Donald Trump pour incitation à l'insurrection lors de l'assaut du Capitole. Des centaines d'indigènes équatoriens ont manifesté jeudi à Quito pour soutenir leur candidat à la présidence de l'Équateur, Yaku Pérez, qui estime que le premier tour de l'élection présidentielle a été marqué par la fraude et demande un recomptage. 5 agents de sécurité afghans ont été tués jeudi dans l'attaque d'un convoi de l'Organisation des Nations Unies qu'ils escortaient dans la province de Kaboul, a annoncé la mission de l'ONU. 8 islamistes ont été condamnés à la pendaison mercredi par un tribunal du Bangladesh pour le meurtre d'un éditeur, alors que la nation conservatrice à majorité musulmane est tiraillée entre les partisans de la ligne radicale et les laïcs. L'OMS a annoncé mercredi que le vaccin anti-Covid élaboré par AstraZeneca pouvait être administré aux plus de 65 ans et dans les pays où circulent des variants. L'Agence internationale de l'énergie atomique a indiqué mercredi que l'Iran a débuté la production d'uranium métal pour alimenter son réacteur de recherche à Téhéran, nouvelle violation de ses engagements de l'accord de 2015. Les Émirats arabes unis ont placé leur sonde Hope autour de l'orbite de Mars mardi, devenant le premier pays arabe à réaliser un tel exploit. Après un séjour de 4 semaines à Wuhan, en Chine, l'équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS a annoncé mardi n'avoir pu percer les origines de la pandémie de COVID-19 qui continue de sévir dans le monde, entraînant de nouvelles restrictions. L'Union européenne et la Russie sont entrées en confrontation ouverte mardi avec l'annonce de la préparation de sanctions européennes pour défendre les droits fondamentaux en Russie et les durcissements de Kremlin contre l'opposition accusée de trahison. Les opérations de secours se poursuivaient à la nuit tombée mardi dans le nord de l'Inde pour tenter d'extraire 34 employés des centrales hydrauliques bloquées dans un tunnel après une crue dévastatrice attribuée à la rupture d'un glacier himalayen qui a fait au moins 32 morts tandis que plus de 170 personnes sont toujours portées disparues. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau rejeté lundi les accusations de corruption à son encontre lors d'une brève comparution au tribunal de Jérusalem à 6 semaines d'élections cruciales pour sa survie politique. L'opposition haïtienne a engagé lundi un bras de fer avec le président contesté Jovenel Moïse en désignant un dirigeant censé assurer la transition dans le pays au lendemain de l'annonce par les autorités qu'elles avaient de jouer un projet de coup d'État contre lui.
Françoise Niamien présente la rubrique sur la migration.
Commençons notre rubrique sur la migration par la Colombie, où un millier de migrants, en majorité haïtiens et cubains, sont bloqués dans le nord du pays du fait de la fermeture des frontières, en l'occurrence avec le Panama, en raison de la pandémie de COVID-19. Installés dans des tentes de fortune sur la plage de Necoclí, ces migrants désireux de rejoindre les États-Unis veulent tenter de traverser le dangereux golfe d'Uraba vers la localité d'Ancadi, a précisé le directeur de l'unité locale de gestion des risques et catastrophes, César Zuniga. La majorité de ces migrants, dont une centaine d'enfants et de femmes enceintes, viennent d'Haïti et de Cuba. Mais il y a aussi parmi eux des ressortissants africains en provenance du Burkina Faso, du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, du Congo, de Guinée et de Somalie. Le maire d'Ancadi, Alexander Morino, argue que s'il restait bloqué dans sa commune, plus petite que Necoclí, il y aurait un risque sanitaire pour les habitants du fait de la COVID-19 et réclame un corridor humanitaire à la frontière. Le golfe d'Uraba est l'un des principaux points de passage des migrants, dont certains viennent aussi parfois d'Asie pour rejoindre les États-Unis par la mer des Caraïbes avec des escales en Amérique centrale. 7 migrants sont morts noyés le 4 janvier lors du naufrage d'une embarcation dans cette zone. De Douala à Tanger, en passant par Ceuta et Alger, des artistes africains explorent les termes de migration, des frontières et de l'identité dans un travail exposé à Paris, en France. Baptisée Zone Franche, l'exposition inaugurée le mercredi 10 février dernier en ligne pour cause de crise sanitaire est le fruit de 2 années de travail entre 3 structures artistiques au Maroc, au Cameroun et en France, explique Marilyn Douala Mangabel, l'une des commissaires de l'exposition. Nous avons rencontré une centaine d'acteurs locaux, des artistes, des commerçants, des associations. C'est une véritable aventure collective, souligne-t-elle. 14 artistes camerounais, sénégalais, malgaches, marocains ont au final été invités à travailler autour des thématiques du voyage, des flux de personnes, des marchandises et d'idées à travers l'Afrique et vers l'Europe. La première partie de l'exposition est consacrée aux frontières, avec notamment l'œuvre de l'artiste marocain Fatia Zemouri. De grandes cartes géographiques en tôle froissée contre les frontières et les murs de séparation érigés partout dans le monde. L'exposition explore enfin des thématiques plus intimes, car les hommes voyagent avec leurs croyances, leur spiritualité et leurs rencontres, rappelle la directrice artistique Bérénice Saliou. Le Nigeria a inauguré mardi dernier le lancement des travaux de construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle doit relier la ville de Kano dans le nord à celle de Maradi, une ville du sud du Niger voisin. Coût de l'opération près de 2 milliards de dollars. Un projet qui a été approuvé par Abuja en septembre dernier, malgré la crise sanitaire. Même si la ligne est à une voie, elle favorisera les échanges commerciaux entre le Niger enclavé et le reste du monde, en lui ouvrant l'accès aux ports nigériens de Lagos et de Lekki à plus de 1200 km au sud.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Mwando-Boabualo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Oh, freedom, freedom is freedom, freedom is coming, oh yes, oh freedom, freedom is freedom, freedom is freedom, freedom is coming, oh yes, I know, 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 oh yes, I know.
Jesus is coming, oh yes, oh Jesus, Jesus is coming.